Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu nous dis. Merci pour cette parole que tu nous donnes maintenant sur la famille. Au nom de Jésus, je me demande tes mains. Amen. Dis avec moi, la reconnaissance. Alors, voilà déjà plusieurs semaines que nous sommes en train de parler de la famille, nous sommes en train de parler du foyer, et nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de cette première série d'enseignements qui concerne les choses à mettre en place dans notre vie avant de nous marier. Mais si ces choses-là n'ont pas pu être mises en place, n'ont pas été mises en place avant le mariage, nous pouvons le faire pendant, tout en étant mariés. Étant mariés, nous pouvons faire ces choses-là. Et nous avons appelé cela donc le rachat du temps. Nous pouvons racheter le temps. Ce sont des choses nécessaires. Ce sont des enseignements, ce sont des principes que le monde a oubliés. Tout simplement parce que les hommes se sont détournés de Dieu. Et l'humanité s'étant détournée de Dieu, l'humanité a perdu le sens vrai du mariage, le véritable bonheur, la véritable joie qui se trouve dans le mariage. Et le mariage a un objectif particulier. Le mariage est un accélérateur de destinée. On ne se marie pas juste pour avoir un conjoint chez soi et puis ne pas se disputer, être content. Ce n'est pas cela le but de Dieu. Dieu a instauré le mariage avec un projet précis. C'est que l'homme avait une mission à réaliser et il avait besoin qu'on puisse l'aider de manière profonde et véritable. Donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui susciter une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, le mariage a un objectif. Et ce ne sont pas les hommes qui ont instauré le mariage pour qu'eux-mêmes décident et trouvent d'autres raisons pour lesquelles ils veulent se marier et souhaitent se marier. Et parce que les hommes souhaitent faire à leur tête, ils moissonnent ce que nous constatons maintenant. Drames conjugaux, violences conjugales, difficultés par-ci, par-là, divorce en cascade, malheur, plein de difficultés, mauvaise éducation des enfants. Toutes ces choses-là viennent de ce que nous n'avons pas respecté les principes de Dieu. Et le Seigneur a donné des principes, mais dans sa parole, dans sa parole. Et ceux qui aiment Christ, à ceux qui aiment et qui sont attachés, le Seigneur ouvre leurs yeux pour comprendre. Ce ne sont pas des choses compliquées. Il faut juste se disposer et puis Dieu fait le reste. Dieu agit puissamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, l'avant-dernier point de notre série sur la période qui précède le mariage, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'aptitude de discernement que Dieu va mettre en vous pour reconnaître l'élu. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux savoir qu'une telle personne m'est assortie? Comment je peux savoir qu'avec celui-là ou avec celle-là, je pourrais atteindre le but de Dieu pour ma vie? Alléluia! Alléluia! Bien sûr, pour arriver à ce point, il faut avoir respecté les principes précédents. Donc, si vous n'étiez pas là, ne pensez pas que vous avez compris le message en vous limitant à ce que je vais dire aujourd'hui. Écoutez les choses qui précèdent. Parce que maintenant, on va parler un peu de l'autre. Amen. Jusqu'à présent, tous les principes précédents, on a parlé de nous-mêmes. Ce que je devais corriger dans ma vie. Comment je devais guérir mon être intérieur. Comment je devais rester seul avec Dieu. Comment je devais retrouver la face de Dieu en contemplant le Seigneur dans le lieu secret. Toutes ces choses-là, nous avons expliqué et à quoi elles correspondent dans la vie réelle. Comment est-ce qu'on les vit concrètement. Amen. Donc, le processus du mariage idéal se voit dans le livre de la Genèse. Le processus dans lequel Dieu a conduit Adam pour qu'il se marie avec Ève. Mais Dieu a donné ces principes-là de manière voilée. Parce que la Bible dit que depuis que l'homme s'est séparé de Dieu, Dieu a voilé les choses. Mais pour ceux qui craignent le Seigneur, le voile tombe en Jésus-Christ. Pour ceux qui s'approchent de Christ. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il ait une aide. Après avoir dit cela, ça veut dire qu'il faut qu'il ait une femme. Après avoir dit cela, Dieu demande à Adam de donner des noms aux animaux. Nous sommes en Genèse 2, 19 maintenant. Dieu demande à Adam de donner des noms aux animaux. Et nous avons expliqué que la nomination qu'il était en train de faire, les noms qu'il donnait, n'était en fait qu'une recherche de sa conjointe. Donc Adam donne des noms et lui-même il finit le processus en disant, je n'ai trouvé aucun qui soit mon semblable, qui soit mon vis-à-vis. Dans la version Jérusalem, il est dit, je n'ai trouvé aucun dans ces animaux-là qui me soit assorti. Donc Adam, en donnant des noms, cherchait en fait son épouse. Alléluia. Lorsqu'Adam a prononcé cette phrase, Donc nous avons expliqué ce dont il s'agissait dans ce contexte. Lorsqu'Adam a prononcé cette phrase, la Bible dit que Dieu va le plonger dans un profond sommeil. Nous avons expliqué ce que c'est que le profond sommeil. Pourquoi nous devons aussi être plongés dans le profond sommeil? Voilà, ce n'est pas que tu vas tomber dans un coma naturel, mais c'est une forme de mort, c'est une forme de coma spirituel par laquelle tu dois passer pour rentrer dans le processus de Dieu, pour que Dieu t'amène la personne qui t'est réellement assortie. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Ok. Donc, lorsqu'Adam s'est relevé de son sommeil, parce que pendant qu'il dormait, Dieu a pris sa côte, Dieu a pris son rêve, Dieu a pris ses pensées, Dieu a pris sa vision. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Ève. Quand Adam se réveille, il dit, cette fois, si, parce qu'il y avait d'autres fois, il dit donc, les autres fois, il n'a pas accepté, parce que c'était les animaux, mais cette fois-ci, il dit, cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Autrement dit, Adam a reconnu que la dame, la personne qui était en face de lui, était la personne qui lui était assortie. Il dit, cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et puis il dit ceci, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Et Dieu va dire donc, c'est ainsi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen vitaminé. Donc, comment Adam a reconnu Ève? Il a reconnu par une expression. Et je vous ai dit que cette expression-là n'est pas banale. Elle a un sens très profond. L'expression qu'Adam a utilisée est stipulée ainsi. Il dit ainsi, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voilà la phrase qu'il a prononcée. Cette phrase-là a un sens. Elle dit que la personne qui me ressemble, avec qui je dois me marier, avec qui je peux me marier, doit être os de mes os et chair de ma chair. Et je vous ai dit que l'ordre dans lequel est cité les choses est très important. Il ne dit pas chair de ma chair avant os de mes os, mais il dit os de mes os avant chair de ma chair. Je lui ai dit, avant que tu te maries, avant que tu prennes la décision de t'engager avec ce monsieur, assure-toi qu'il soit os de tes os et chair de ta chair. Si tu dis, il est chair de ma chair, avant de dire os de mes os, tu vas avoir des problèmes. Et je vous expliquais dimanche dernier, qu'est-ce que ça signifie dans la vie pratique de dire cela. Dans la vie pratique, c'est apprécier une personne, c'est déclarer qu'une personne est mariable sur la base de ce que nous percevons d'elle. Sa manière de parler, sa manière d'être, sa taille, sa forme, son argent, sa belle voix. Quand tu l'entends avec une voix comme ça, « Oh, ma poupée, tu veux mourir en même temps. » Toutes ces choses-là ne sont pas suffisantes pour dire qu'une personne t'est assortie. Donc, tout ce qui est visible, c'est quand on dit « Voilà celle qui est os de mes os » ou bien « chair de ma chair », c'est sa manière de faire, sa chair me va bien. Ça, c'est chair de ma chair. Je sens que je suis en communion avec, quand je vois sa taille, je vois sa forme, je vois sa démarche, je suis fan d'elle. Ça va. Ça, c'est dangereux. Pour se marier, il faut dire d'abord os de mes os. Et on a dit que l'expression des os fait référence à l'être intérieur. Pas au squelette, mais à l'esprit de la personne. Le vrai mariage, le mariage qui réussit selon Dieu, la personne dit ceci. La fille qu'elle a, l'homme qu'elle a, son être intérieur correspond à mon être intérieur. Son esprit et mon esprit convergent. Alléluia. 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 Donnez-moi un bon amen. Amen. Un bon amen encore. Amen. Maintenant, c'est à partir de là que commence la reconnaissance. Je dois pouvoir dire os de mes os. Dimanche dernier, je l'ai dit. Comment est-ce que cela se fait concrètement? Dans la pratique, comment est-ce que je discerne l'intérieur d'une personne? Ça, c'est vrai pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Pour ceux qui sont mariés, je suis déjà marié, qu'est-ce que je fais? Je constate que je me suis marié sur la base de c'est une belle fille, elle parle bien, c'est un beau garçon, voilà, il vit. Moi, je vais quitter la Côte d'Ivoire, il vit de l'autre côté. Voilà, parce que ça, c'est un critère qui embrouille les sœurs au premier cycle. Quelqu'un les appelle tout de suite. Je suis aux États-Unis. J'ai la nationalité américaine, je vais t'épouser. S'il était à Abidjan, il n'allait pas vouloir. Mais depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, elle commence à dire, ça, c'est un bon parti. C'est une erreur. Ce n'est pas suffisant. Amen. La reconnaissance, ce principe que nous sommes en train d'étudier, est aussi l'élément pour ceux qui sont mariés, et même pour ceux qui ne le sont pas, qui vous permet de reconnaître ou de savoir la façon dont ce conjoint et vous allez travailler pour votre destinée. C'est la reconnaissance qui nous permet d'entrer dans le destin. Le thème de notre séminaire, c'est réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. Tu peux te marier et ton foyer sera calme, sans histoire. Mais pour Dieu, ça ne signifie pas que tu as réussi. Si ton foyer a beaucoup d'histoires, là c'est sûr que ça ne marche pas. Mais ton foyer peut ne pas avoir d'histoire. Mais Dieu va vous dire que vous n'avez pas réussi parce que vous n'avez pas atteint le but pour lequel vous êtes né. Et cet enseignement-là, je ne le prêche pas simplement pour qu'on soit épanoui, pour qu'on n'ait pas de dispute dans le couple. Mais je l'enseigne pour que même ceux qui sont déjà épanouis, qui ont la paix, puissent comprendre qu'ils doivent atteindre un objectif avec leur conjoint. Si vous ne saisissez pas cela, votre mariage aura été un échec. Vous aurez connu juste du succès, mais pas de la réussite. Est-ce qu'on me comprend? Et qu'est-ce qui permet maintenant de savoir que j'ai un destin avec cet homme? J'ai un destin avec cette femme. Alléluia. Maintenant, si je suis marié et que je constate que je ne suis pas compatible avec ce monsieur, ce n'est pas nécessaire de me séparer. Car ce qui est l'homme pour Dieu, ce n'est pas l'enveloppe que tu vois. Dieu est capable de changer l'être intérieur de toute personne. De sorte que celui dont l'être intérieur ne t'était pas assorti devienne maintenant assorti. C'est-à-dire que vous êtes compatible. Dieu peut le faire. Alléluia. Et j'ai expliqué la dernière fois comment est-ce qu'il procède. Parce que Dieu n'est pas pour la séparation. Le divorce n'est pas la solution de Dieu. Le divorce est un symptôme qui montre que tu as un problème. C'est un signe qui montre que tu as un problème. Et c'est ce qu'il faut chercher à corriger. Alléluia. Alléluia. Si tu le corriges, après tu vas voir. Si Dieu estime que vous devez rester ensemble, tu vas voir que ça va se passer. S'il estime que il va créer certaines circonstances pour te permettre de repartir, que son nom soit aussi, il est souverain dans ce qu'il fait. Mais le problème n'est pas la séparation. Les statistiques montrent que les personnes qui divorcent et qui se remarient divorcent encore. En tout cas, il y a beaucoup de divorces des personnes divorcées. On a vu avec le cas de la femme samaritaine. Elle s'était mariée 5 fois. Elle a fait un premier divorce, elle a enchaîné avec 4 autres. Et puis elle est en train d'essayer un 6e. Jésus dit, ma fille, ton problème ce n'est pas les hommes. Tu as besoin de boire l'eau que je te donne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc comment je reconnais la personne? Pour cela, nous voulons voir quelques passages. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. 2 Corinthiens 5 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est cette partie-là qui m'intéresse. La Bible dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur est en train de dire, tant que tu veux t'appuyer sur la chair, tu ne connaîtras personne. Il dit, maintenant que nous avons connu l'évangile, il n'y a personne que nous pouvons dire connaître si nous nous appuyons sur la chair. Connaître quelqu'un selon la chair, c'est connaître la personne à partir de ce que les yeux voient, à partir de ce que la main peut toucher, le corps peut toucher, à partir de ce qu'on peut goûter. Tout ce qui fait référence aux 5 sens de l'homme sont trompeurs. On ne peut pas se fier à ces choses-là pour dire qu'on connaît quelqu'un. Alléluia. Or, lorsque Adam a vu Ève, il l'a reconnue. Il a connu son fond. Il dit, celle-là, son être intérieur correspond à moi. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment je peux découvrir l'intérieur d'une personne? Et la Bible dit, ne te fie pas à la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Matthieu chapitre 16, verset 13. Il est dit, là je lis dans la version Darby, hein. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples en disant, qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Et il dit, les uns disent Jean le Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et il dit, les uns disent Jean le Baptiseur, les autres Élie. Et verset 16 maintenant, et Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit, tu es bienheureux Simon, fils de Jonas, car ni la chair et le sang, dis avec moi la chair et le sang. Dis avec moi la chair et le sang. Il dit donc, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, dans la version Darby, il est écrit, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. C'est une phrase que les personnes ont mal comprise, c'est une parenthèse. Les gens croient que Jésus a dit, il va bâtir l'église sur l'apôtre Pierre. Non, 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 non. La phrase de Jésus, là, il utilise deux mots. Pierre en hébreu, en grec, c'est Pierre. Mais le mot que Jésus a utilisé ici, le deuxième mot Pierre, il ne parlait pas de Pierre l'apôtre, il parlait de cailloux. Il dit, toi tu es Pierre, et sur ce caillou, donc sur cette pierre, c'est pas le même Pierre, c'est le français qui fait la confusion. Parce que nos cailloux, on appelle Pierre, et puis nos amis aussi, on les appelle Pierre. Quelqu'un me suit? On voit un caillou, on dit, ça c'est une pierre. Ton ami aussi, il s'appelle Pierre. Est-ce qu'ils sont pareils? Non, c'est pas pareil. Voilà. C'est, Darby a mieux traduit. Darby dit, tu es Pierre, et sur ce caillou, sur ce roc. Ce n'est pas les mêmes mots dans le grec. Je bâtirai mon église. Sur quel rocher? Sur la déclaration. Il dit, Pierre, sur ta déclaration, je vais bâtir mon église. Alléluia. Et les séjours de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je lis ce texte tout de suite. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, je ne vais pas lire le passage, mais il s'agit ici de la façon dont le prophète Samuel a reconnu l'élu de Dieu. C'est le même principe avec lequel on reconnaît la personne, on reconnaît le conjoint idéal. Samuel arrive dans la maison, il dit, Monsieur Isaïe, il paraît que tu as un fils pour qui je veux prier. Le papa envoie tous ses enfants. Samuel veut reconnaître qu'ils sont les futurs rois. Dieu dit non. L'homme juge à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Jusqu'à ce qu'il découvre David. Il dit, celui-là, c'est lui que j'ai choisi. Dieu a parlé à Samuel. Il dit, David est mon choix. Écoute-moi, pour reconnaître la personne assortie, tu dois entendre Dieu. C'est le premier critère. Dieu doit te parler. Dieu doit te dire. Parce que les eaux, là, tu ne les vois pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour trouver le bon mari, pour trouver la bonne femme, tu dois dire os de mes os. Mais tu vas dire nos aides sont assorties. Mais cette phrase-là, tu ne peux pas la prononcer si Dieu ne t'a rien dit sur ce monsieur ou sur cette femme. Dis à un voisin, Dieu doit te parler. Tu dois entendre Dieu. Je ne vous entends pas bien. Dis entendre Dieu. Entendre Dieu. Comment je reconnais l'homme ou la femme de ma vie? Premier élément, sur son être intérieur. Mais qu'est-ce que je dois savoir sur son être intérieur? Dieu doit me le dire. Mes amis, Dieu parle. Chaque fois que vous avez commencé à cheminer avec une personne qui ne vous était pas assortie, Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé. Par un songe, par des circonstances. Dieu vous a parlé. Quand vous vous êtes approché d'une personne qui allait vous créer des problèmes, Dieu vous a parlé. Quand vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, Dieu vous a parlé, mais vous avez regardé aussi ailleurs. Quand tu as rencontré ton mari, Dieu t'a parlé. Mais lorsqu'il t'a parlé pour te dire, voilà ton mari, tu n'as pas accepté. Ben, son visage ne t'a pas plu. Ah, le gars, franchement, n'est même pas beau. Regarde sa tête. Ah. Sinon, Dieu t'a parlé.
Un jour, tu as vu l'homme de ta vie, tu as prié, le Seigneur t'a exaucé et il t'a montré ton mari. Tu dis, Seigneur, amène-le, amène-le. Dieu te l'a montré. Et Dieu te l'a montré, mais tu n'as pas accepté. Et ce jour-là, le gars était en tapette, en train d'être dans la galère. Tu n'as pas accepté. Tu as jugé avec ta chair. Dieu t'a parlé. Il t'a montré la personne. On t'a regardé. Et tu as regardé. Tu dis, il a quel âge même? Quand tu as dit son âge, tu as vu que tu avais un an de plus. Tu dis, non, ça ne peut pas être lui. Aïe, 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 aïe. Erreur fatale. Quelqu'un te dit, ah, parce que là, on peut marier quelqu'un qui est plus âgé que nous. Je vous ai déjà répondu. Je dis, ce n'est pas l'âge physique qui est le plus important, c'est l'âge intérieur. La chair n'est pas. L'homme n'est pas physique. L'homme est un esprit. C'est l'âge de son esprit qui fait la différence. Effectivement, une femme doit épouser quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, mais pas l'âge naturel, l'âge spirituel. Un homme doit être un peu plus mature. Spirituellement parlant, il ne doit pas être ton enfant. Parce qu'il doit conduire. Mais ça, c'est les valeurs intérieures. Il y a des personnes qui sont plus âgées que toi, de 10 ans, mais que ils savent, quand tu les, leur être intérieur est vraiment enfantin. Le gars a 60 ans, mandrait un bébé. Quelqu'un comme ça, physiquement, c'est ton aîné, mais dans l'être intérieur, tu es sa grande sœur. Tu es plus âgé que lui. L'âge de l'être intérieur est différent de l'âge physique. C'est un âge qui est fonction de vos expériences, de la façon dont vous retenez les choses, de la façon dont vous développez votre sagesse. C'est rattaché à la sagesse d'une personne, à la croissance de la sagesse. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en grâce, en sagesse. C'est la sagesse là qui fait la différence. Alléluia. Alléluia. Voilà, normalement, un mari qui est prêt doit être un peu plus sage. S'il est moins sage que toi, il est comme un enfant, ça va te poser des problèmes. Mais or, il peut rattraper ce retard, du moins que ce n'est pas lié forcément aux années. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Dieu te dit, tu dis, ah, ça ne peut pas être lui. Pourquoi tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Dieu te parle, mais tu as rejeté les choses que Dieu t'a données parce que tu fais un choix basé sur la chair. Paul dit, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Fais attention. Tu juges la chair. Au lieu de te dire, pour reconnaître le mari, c'est os de mes os, chair de ma chair. Toi, tu as un problème parce que tu veux toujours commencer par ce qui est visible, par ce qui est manifeste. Parce que lorsqu'on parle de la chair, on parle de l'apparence d'une personne. On parle de sa manière d'être, de sa manière de parler, de sa manière de se vêtir, de son emploi actuel, de la manière dont elle paraît zélée spirituellement. Tant qu'on vous appuie ce critère, on va avoir des célibataires pendant très longtemps. Tu as appelé à te marier, mais la voix de Dieu, tu n'entends pas parce que tu entends autre chose. Tu pleures jusqu'à... Dieu te le montre, dis le voilà. Mais tu n'arrives pas là. Tu ne peux pas accepter. Maintenant, il y a d'autres personnes que Dieu n'a pas choisies. C'est eux-là que tu veux. Tu dis, je sens que c'est lui. Je sens que c'est lui. Dieu aussi te parle pour te dire que ce n'est pas lui. Mais la façon dont Dieu nous parle peut être confondue dans d'autres voix, parce qu'il y a beaucoup de voix dans les airs, mes amis. Beaucoup, il y a trop de paroles. Le problème, c'est que tu as des difficultés à discerner qui parle. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? Donc le diable parle. Le diable peut te donner un mariage. Le truc, c'est que comment je reconnais que Dieu parle? Et c'est là que je reviens sur notre texte de Matthieu chapitre 16. Je rappelle, nous sommes au premier critère de la reconnaissance. Comment je reconnais l'homme ou la femme de ma vie? Je dois entendre Dieu. Mais Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prête point garde. Dieu parle. Dieu ne t'a pas choisi pour être célibataire. Mais il t'a parlé, il t'a pas entendu. Un jour, tu as fait un voyage. Tu passais. Un jour, tu étais dans une voiture. Tu pensais que c'était par accident, tu étais assis dans ce cadre, dans ce taxi. Mais à l'instant, Dieu t'a dit, ton voisin, là, c'est l'homme de ta vie. Mais tu n'as pas entendu quelque chose. Parce que la voix a parlé, mais il y a tellement de voix dans l'homme, ça s'est mélangé là-bas, tout ça là. Donc tu es arrivé, et quand tu as tenu, tu as regardé sa tête. Il avait coupé sa barbe. Il y a des manières dont on coupe les barbes là. Tu n'apprécies pas ça du tout. Lui, c'est exactement, il s'était rasé comme tu détestes. Et quand tu t'es tourné pour le regarder, tu dis, regarde ces gars là, Abidjan. Et au lieu de bien se coiffer, aïe aïe aïe, ton mari était là. Et il a voulu sympathiser avec toi. Bonjour mademoiselle, ça va? Je prends votre contact. Tu es, toi et ta vilaine barbe là, tu vas prendre mon contact. Ah, c'est ce que tu penses, hein? Ouh, donc tu lui as donné un numéro. Tu dis des gens comme ça. Et tu es surprise. Dieu va te le rappeler. Un autre jour, tu arrives au cul, tu le rencontres. Tu dis, ah, le gars qui se rase mal. Il vient aussi à l'église. Et puis bon, mais tu ne peux même pas penser à lui. Parce que tu entends une autre voix. Il y a une autre voix en toi qui est trop forte par rapport à la voix de Dieu. Et c'est laquelle? C'est ce dont Jésus parle ici. Jésus dit, il demande aux disciples, après quelques années de marche avec eux, il leur pose la question, Matthieu 16, qu'on a lu tantôt. Il dit, vous là, qui dites-vous que je suis? Mes amis, est-ce que c'est une question à poser quand on a marché avec des gens pendant un moment? Si je vous demande ici là, qui suis-je? Vous allez me répondre, mais tu es pasteur Sanogo? Qui me connaît? Mais on te connaît ici à Abidjan. Tu es pasteur Sanogo, tu es le pasteur de l'église Vase d'honneur. Voilà. Tu peux donner des caractéristiques qui sont vraies. Je pense qu'ils ont dû trouver la question de Jésus étrange. Parce qu'ils connaissent le prénom de Jésus, ils connaissent le nom de la maman de Jésus. Et Jésus leur demande, vous là, d'abord, qu'est-ce que la foule dit de moi? On dit, chacun me dit. Il dit, y en a qui disent que tu es un prophète. Parce qu'on t'a vu guérir les malades. Or, c'est pas parce que Jésus a guéri un malade qu'il est un prophète. Il est plus qu'un prophète. Les gens disent, on te dit, certains disent que tu es Élie. Parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter des morts, parler à la tempête. Et Élie a fait ce genre de miracle. On dit, c'est certainement Élie. Mais ce n'était pas Élie. Et puis il dit, bon, ok, ça c'est ce que les gens pensent. Maintenant, vous qui voulez marcher avec moi, vous qui voulez cheminer avec moi, est-ce que vous savez qui je suis? Parce que ce n'est pas évident. On peut marcher avec une personne 20 ans sans la connaître. Découvrir les eaux, c'est connaître le fond. Et ça, Dieu doit vous parler. Et Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Il dit, qui dites-vous que je suis? Les gens ont dû répondre comme ça. Tu es Jésus de Nazareth. Non, il dit, non, Bethléem. Parce que Jésus est né à Bethléem, on l'appelle Jésus de Nazareth. On dit, Jésus, mais tu es né à Nazareth ou à Bethléem? Faut nous dire maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. D'habitude, c'est l'endroit où on est. Hein? On devait dire Jésus de Bethléem. Pourquoi on t'appelle Jésus de Nazareth? Faut nous expliquer. Donc, tout ça là, tu es Nazareth, tu es de... Ok. Chacun a dû donner des réponses. Et puis, Pierre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes amis, nous, on a l'habitude d'utiliser le mot Christ ici. Mais à l'époque, le mot Christ là, c'est destiné à une personne très particulière. Il fallait avoir une révélation pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que Pierre a dit, on dit, mais en quoi c'est une révélation? Nous, on sait que c'est Jésus. Jésus dit, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je lui dis, waouh, Pierre. Écoutez, cher ami, il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, pour avoir la vraie connaissance d'un individu, malgré le fait que vous ayez marché avec cette personne pendant 50 ans, il faut que le Père vous parle. Car 2 Corinthiens 5, 16 dit, nous ne connaissons personne. Regarde celui à côté, tu la connais. La fille, tu la connais pas. Ton mari à côté de toi, tu ne le connais pas. Nous ne connaissons personne. La seule personne qui connaît, c'est le Père. On ne peut pas connaître un individu par l'expérience. Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Jésus dit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et dit, sur cette parole, sur ce roc, sur cette révélation, je vais bâtir. Donc, Dieu bâtit tout dans votre vie sur la base des révélations que vous avez. Votre couple doit être bâti
sur la révélation que vous avez de votre conjoint. Dieu doit te parler de ton mari. Monsieur, ta femme, là, Dieu doit te dire qui elle est. Il dit, est-ce que vous me suivez? Il dit, Pierre, parce que Dieu t'a parlé sur cette parole, je vais bâtir quelque chose que le diable ne pourra pas ébranler. Si Dieu te parle de ta femme, ton foyer est bien parti pour atteindre sa destinée, parce que le diable ne peut plus vous arrêter. Mais si tu te maries sur d'autres révélations, amen, Jésus dit ceci, est-ce qu'on est ensemble? Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Autrement dit, la chair aussi révèle. Le sang aussi révèle. Donc la chair peut te révéler qui est quelqu'un. Mais ce n'est pas la bonne révélation. Comment la chair révèle? Donc tu arrives, la chair a ses choix. La chair parle. La chair révèle. Mais dans le cas de Pierre, ce n'est pas la chair qui lui a parlé. La chair, ta chair te parle. La chair donne des songes. Et la chair choisit avec... La chair a des critères de choix. La chair a son goût de femme et d'homme. Ça, il ne faut pas lui enlever ça. Elle tient à ça. Il y en a qui ont un petit modèle, grand modèle, fort, mais en tout cas, la chair a son goût. La chair... Non, la chair, c'est quelle chair sur la terre? La chair, la chair. La chair parle. La chair donne des révélations, mais ce n'est pas des bonnes révélations. Elle te regarde et dit non. Quand tu vois là ses yeux, la fille là, quand elle tourne comme ça, là, c'est la chair qui dit ça. Non, une femme comme ça. La chair te dit, prends-la. Si tu dors, la chair peut te donner une vision, la nuit en rêve. Je suis ton Dieu. Marie le frère, aux yeux quoi? Aux yeux comment? Aux yeux bleus. Marie le frère. La chair parle. Jésus dit, Pierre, tu as eu la chance. Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas la chair qui t'a parlé. Ce n'est pas la chair. La chair parle. La chair a ses critères. Quand la chair a des problèmes, comme en ce moment-là, l'Afrique a des difficultés. Donc la chair cherche à se marier aussi. Mais à se marier à ceux qui sont de l'autre côté. À ceux qui ont l'argent. La chair n'est pas dans vos considérations spirituelles. La chair, elle ne prie pas. Elle ne connaît pas la prière. La chair veut manger. Donc, la chair, c'est la chair. La chair cherche un endroit où elle va dormir. La chair veut manger. La chair a ses réalités. Donc, tout ce que j'explique là, la chair ne comprend pas. Et là, je parle en esprit seulement. La chair, elle veut du concret. Oh, c'est pas bon, c'est dangereux. On ne se marie pas avec ça. On ne se marie pas avec. Et la chair va te parler. La chair va te parler. Quand tu as faim, la vie est dure. Comment dirais-je? Tes parents n'ont pas les moyens. La vie était dure. Ta chair va chercher une assurance avec un homme qui a l'argent. Donc, si Dieu te révèle un frère dans la galère, tu ne vas pas entendre. Tu vois, le frère, il arrive à l'église, il est simplot. Tu ne vas pas entendre. Quand tu vas te dire, voilà ton mari. Non. Tu as trop souffert dans la vie. Quand tu vois le gars là, quand ta chair le voit, elle dit, ah, dans la vie là, je me suis battu pour tout. Un monsieur comme ça. Tu le vois à la fin du culte, il est en train de voir un frère à côté. Mon gars, pardon. T'as pas un 200 francs, j'ai rentré à la maison. Est-ce que la chair peut accepter la chair? La chair va te donner un réma, une révélation. Et si dit Dieu, ça peut être lui. Mes amis, c'est pourquoi on ne se marie pas. Ça prie, Dieu, ils ont l'impression que Dieu n'a pas répondu. Dieu parle. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il y a d'autres voix. La chair parle. La chair parle. Et tu es en train de vouloir te marier sur la base de chair de ma chair. Avant de regarder l'être intérieur. Ce monsieur qui est en train de mettre 200 francs, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas, tu ne le connais pas. Et c'est pourquoi il dit, nous ne jugeons plus personne. Nous ne connaissons personne. personnes selon la chair. On ne les connaît pas. Tu ne sais pas ce qu'il transporte. Tu ne sais pas le trésor qui est en lui. Lui-même, peut-être qu'il ne le sait pas. Et ta chair va parler. Et tu vas voir, les années vont s'écouler. Les années vont s'écouler. Les années vont partir. Les années vont passer. Les années vont passer. Parce que Dieu te parle, ta chair chasse. Dieu te parle, ta chair rejette. Dieu te parle, ta chair rejette. Ta chair rejette, ta chair rejette. Donc la chair parle. L'âme aussi parle. L'âme. L'âme est dans le sang. Il dit, le texte dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. Donc ça veut dire la chair peut faire des révélations, l'âme aussi ou bien le sang fait des révélations. Mais quand la Bible dit le sang fait des révélations, la Bible ne parle pas de ton sang qui est rouge. La Bible parle de l'âme, car Lévitique dit que l'âme de l'homme est dans le sang. Donc quand la Bible dit c'est ni la chair et le sang, il veut dire c'est pas ton âme. Et dans l'âme il y a quoi? Il y a tes émotions. On peut se marier pas pour des critères physiques, mais on peut se marier tout simplement parce qu'on est, on éprouve de très fortes émotions pour une personne. Mais ça c'est le sang. On dit, mais pourquoi tu l'aimes? Il n'est même pas joli. Tu dis, ah, quand je le vois, je ne sais pas, mon cœur chauffe. Je ne sais pas, je suis bien avec lui. Ça, c'est le sang. Physiquement, il n'y a rien pour plaire. Mais, je ne sais pas, sa façon d'être, sa façon d'être, de se comporter, font que ton sang, ton âme, s'est attachée à lui. Et, malgré tout ce qu'on peut dire, en tout cas, physiquement, la chair peut ne pas être d'accord. La chair peut dire, lui, là, il n'est pas mariable. Mais l'âme peut dire, mais je l'aime. Je ne sais pas, il sait me prendre. Je ne sais pas comment. Quelquefois, vous voyez des gens, ils sont même. Ils manifestent beaucoup de brutalité envers leur conjoint. Mais leur âme sont attachées à des gens comme ça. Ça, c'est le sang. Vous comprenez? Et l'âme aussi parle. L'âme aussi donne des révélations. C'est dans l'âme, il y a le coup de, ce qu'on appelle le coup de foudre. Et quand tu vois la personne, quand je le vois, mes poils s'irisent. Ça, c'est la chair de poule. Quand je l'entends. Vous savez, l'âme est dans le sang. Donc, quand vous voyez la personne, votre cœur se coupe là. Parce que, mais c'est vrai, parce que le sang passe par le cœur. Donc, quand tes émotions sont atteintes, tu le sens dans ton cœur. Parce que l'âme est dans le sang. Donc, physiquement même, tu peux sentir que ton sang, c'est glace. Mais c'est pas que ton sang a changé de température. C'est juste que ton âme a été secouée. Donc, en ce moment-là, devant une personne comme ça, le sang aussi peut parler. Mais ce n'est pas la preuve que c'est de Dieu. Alléluia. Ça va venir après. Je n'ai pas dit qu'il faut mépriser cela, mais ce n'est pas le premier point de reconnaissance. Ce qui nous amène à reconnaître, c'est ce que Dieu nous dit. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que pour entendre la voix de Dieu, il faut que vous soyez d'accord sur ces éléments-là. Sans quoi, Dieu va vous dire, mais vous n'allez pas entendre parce que Dieu et vous n'avez pas le même langage de reconnaissance. Toi, tu tiens à tout prix que la révélation soit charnelle. Dieu te dit, la révélation est toujours spirituelle d'abord. Donc, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et ton mariage n'est pas faisable, n'est pas possible. Tu veux rejeter ton mariage dans lequel tu te trouves. Parce que tu juges ton conjoint avec la chair. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut faire comme Samuel. Il a prié Dieu. Seigneur, montre-moi celui que tu as choisi. Il faut faire comme le serviteur d'Abraham, dont nous avons lu l'histoire dimanche dernier, qui a prié le Seigneur. Montre-moi la personne que tu as choisie. Car toi seul connais le cœur, l'être intérieur d'une personne. Mais qu'est-ce que vous devez demander à Dieu exactement pour la personne? La première des choses, et ça quand on est marié, on doit le faire parce que c'est ce qui va restaurer votre couple. Tu veux quitter ton mari en ce moment-là parce que tu le juges selon la chair. Tu le juges selon ton sang. La manière dont il te parle, la façon dont il te considère fait que tu ne peux plus le supporter. C'est ta chair qui ne le supporte plus. Ton sang ne le supporte plus. Mais peut-être que l'esprit a une autre parole. Peut-être aussi que l'esprit est d'accord. Je ne sais pas trop. Mais tant que tu n'as pas consulté Dieu pour savoir ce qu'il en est, tu ne peux pas juger sur la base de ta chair qui ne veut plus voir la tête de ce mec. Ta chair ne supporte plus cette femme. Ton sang et ton âme ne la supportent plus. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. De même que ce n'est pas suffisant pour se marier, ce n'est pas suffisant pour divorcer. Il faut chercher plus profondément. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut demander à Dieu. C'est la première des choses. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a l'air de vous intéresser, vous sentez, la première des choses qu'il faut savoir, Seigneur, donne-moi de ne pas juger selon l'apparence. C'est comme ça qu'il faut prier. Quand vous priez pour votre mariage, dis Père, je te demande un homme pour ma vie. Seigneur, je te demande la femme. Mais tu sais, mon Dieu, je suis aveugle. Aujourd'hui, tu m'as appris à ne pas me fier à mes sens naturels. mais à me fier à ton sens spirituel. Parle-moi. Dis-moi si cet homme-là est mariable. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans ce cas, dans ta prière? Tu demandes à Dieu, quand on demande les eaux, là, les eaux, c'est-à-dire l'être intérieur, qu'est-ce qu'on recherche? Premièrement, c'est qui est cette personne devant Dieu? Quel est le nom que Dieu lui donne? Alléluia! 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 Tu vas découvrir que dans cet homme qui a l'air méprisable, comme je l'ai dit tantôt, il y a un trésor. Cette femme que tu vois frêle, bizarre, c'est une championne, mais elle-même, elle l'ignore. C'est cette vision qui va vous aider à bâtir. Pourquoi je le dis? Parce que tu ne peux pas appliquer. Maintenant, je parle même à ceux qui sont mariés. La Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Pourquoi Jésus s'est sacrifié pour l'Église, pour le monde? Parce qu'il a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Écoutez mes amis, ce n'est pas Dieu a eu pitié du monde. Généralement, lorsqu'on cite Jean 3,16, on lit aimer, mais inconsciemment, on lit pitié. Pitié, c'est-à-dire, Dieu a vu les hommes, ils étaient trop dans la galère, quoi. Donc, il a voulu les sauver. C'est pas comme ça. L'amour, c'est pas la pitié. L'amour, Dieu, en fait, ce que le texte veut dire, c'est que Dieu a vu combien, malgré tout ce que l'homme manifestait, Dieu a vu combien l'homme était précieux. Tellement il a vu la valeur de l'homme, il a été prêt à se sacrifier pour l'homme. Jésus est mort pour nous, pas simplement, pas par pitié, par compassion. Il a vu qui nous étions, ce que Dieu avait fait de nous et la façon dont le diable nous avait détruits. Dieu a vu notre vision. Tu dois voir la vision, la mission de celui que tu approches. C'est ce que Dieu doit te montrer. Pour reconnaître une personne, tu dois savoir où elle va. Qu'est-ce que Dieu a tracé pour elle? Amen. Parce que quand tu vas découvrir cela, c'est pour ces choses-là que tu pourras mourir pour elle. C'est comme ça que le mariage s'établit. Maintenant, on peut se marier sans ce choix-là. Il faut le faire dans le mariage. Pendant que tu es marié, même si tu t'entends avec ta femme, pour que vous rentrez dans votre destin, demande à Dieu, Seigneur, qui est ma chérie? Qui est-elle? Quel est le trésor que tu as déposé en elle? Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous ne voyez pas ça, vous n'allez pas savoir prendre le chemin de votre destin. Vous n'allez pas savoir être compatible. Vous vous êtes vu dans le miroir, dans le face-à-face ou le seul à seul avec Dieu. Mais maintenant, il faut voir celui que vous voulez marier. Il faut avoir la révélation. Où il va? Qui il est? Dieu doit te dire. En tout cas, tu dois le ressentir. Moi, pour ma femme, je l'ai senti. Et j'ai eu la vision. Parce qu'il ne faut pas aller demander des signes bizarres à Dieu qui sont futiles. Si c'est l'homme de ma vie, aujourd'hui au carrefour, il n'a qu'à me saluer pour dire « Madeleine !» Ça sont des futilités. On ne peut pas pour des choses comme ça. Moi, j'ai prié comme ça. Par trois fois, les signes sont accomplis. Je dis, si c'est elle que je dois marier, que je la rencontre au carrefour, je l'ai vue au carrefour. J'ai vu une soeur, ce n'était pas ma femme. Il y a une autre là, j'ai prié. Je dis, si c'est elle, Seigneur, qu'à la fin du culte, là j'étais à Dalois, qu'elle vienne me saluer en me disant, Mohamed, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien dans tes études? Voici mon signe. Quels sont ces gens des signes là? La sœur est venue me saluer. Elle dit, Mohamed, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Mais elle n'a pas complété dans tes études. Donc, j'étais embrouillé. Mais elle a dit, est-ce que tout va bien? Alors le diable, la chair me parle. Parce que la chair aimait cette fille là. Ma chair. Ma chair m'a donné des songes. Je ne sais pas qu'est-ce que la sœur a fait. Ma chair voulait à tout prix. Ma chair me parle. Mais voilà, le signe n'est pas accompli. Mais la chair dit non. Quand elle dit, est-ce que tout va bien dans le tout là? Il y a les études incluses. J'ai dit non, c'est pas clair. Je n'ai pas dit qu'on ne demande pas des signes en fait. Mais les signes que vous devez demander sont sur d'autres choses en fait. C'est sur l'être intérieur. Pas, je veux savoir si c'est lui, on n'a qu'à se rencontrer. Je ne sais pas. Si lui, quand je passe, il n'a qu'à me donner de l'argent. Là, je sais que c'est mon mari. Ça là, le diable va entendre, le diable va lui convaincre. Il va te donner l'argent. Tu vas faire un faux mariage. Tu vas dire, tous les signes que j'ai demandé par ça sont accomplis. Mais Dieu dit, est-ce que c'est des signes qu'on demande?
Tu veux connaître l'être intérieur, demande des signes sur ses valeurs intérieures. Demande des choses. Qui il est? Montre-moi le fond, Seigneur, de ce monsieur. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Quand j'ai prié comme ça, par ignorance, pour ma femme, j'ai eu des visions. Et ces visions-là guident ma vie. Il y a une d'entre elles, je me suis vu comme un fleuve avec un fort courant d'eau. Mais je n'avais pas de lit. Il n'y avait pas un canal dans lequel l'eau qui jaillissait de moi évoluait. Donc ça jaillissait, ça partait partout. Et puis dans la même chose, c'est comme si je la voyais, elle, mais un grand canal où il y avait très peu d'eau. Il y avait un petit filet d'eau qui circulait, hein, comme le lit d'une grande rivière. Il y avait un petit filet. Et moi, j'étais l'eau sans canalisation. En fait, le Seigneur m'a montré que c'est elle le canal par lequel la vie qu'il a mis en moi allait être canalisée pour atteindre le but. Alléluia. Donc, Amen. C'était pas une affaire. Dieu n'a pas traité d'abord sur une affaire de visage. Est-ce que c'est mon genre? Est-ce qu'elle a l'argent aujourd'hui? Est-ce que on fait? C'est pas ce genre de critères. Dieu commence sur un but. Ça, vous devez le sentir. Si vous ne le sentez pas, que vous engagez, vous êtes en train de vous marier sur l'âme ou bien sur la chair. C'est très dangereux. Quelqu'un me suit? Dieu parle. Il m'a montré un autre songe. Il m'a parlé. Dieu doit te parler de ta femme. Sinon, tu ne peux pas l'aimer pour mourir pour elle. Tu vas mourir. Pourquoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et c'est sacrifié. Toi, tu peux te sacrifier pour ta femme. Mais pour te sacrifier pour elle, ce n'est pas par pitié. C'est parce que tu dis non. Elle est tellement grande qu'elle mérite que je meure pour elle. C'est ce qui fait le mariage. Maintenant, la femme, c'est quoi? Elle, qu'elle prie. La Bible dit, femme, soyez soumise. Soumise vient de ce mot-là, soumission. Or, soumission est composée de deux mots. Sous-mission, c'est-à-dire sous la mission. Autrement dit, pour qu'une femme arrive à être soumise à un homme, c'est-à-dire à faire sa part dans le couple, il faut qu'elle ait vu la mission de son homme. Sans quoi, elle ne peut pas soutenir la mission. La Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. Mais tu vas soulever quelle mission? Si toi-même tu ne sais même pas quelle est sa mission. Alléluia. Donc avant d'entrer dans le mariage et de décider d'être soumise à quelqu'un, mais si tu juges avec la chair, tu ne connais pas sa mission, il y a des choses qu'il faut que tu peux pas te soumettre. Ce sera compliqué parce que c'est très contraire à toi. Mais quand tu pries pour connaître sa mission, tu découvres les missions que tu peux soutenir. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et le deuxième critère avec lequel je termine pour aujourd'hui, ce sont les valeurs de la personne. Os des os, c'est connaître la mission de l'autre. Os des os aussi, c'est-à-dire l'être intérieur qui correspond, c'est connaître ses valeurs. C'est quoi les valeurs? La première des valeurs, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit ceci, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Quand quelqu'un a l'air de t'intéresser, tu as l'impression que Dieu te demande. Ne juge ni le matériel, ni tout ce qui est apparent. Ne le rejette pas. Mais concentre-toi sur ce qui est essentiel. La chair va suivre. Si ce monsieur-là, tu commences à projeter, il avait l'air paresseux, dans la galère, il va sortir de là. Moi, je vous dis que lorsqu'on me voyait, je ne sais pas pourquoi, vraiment mon épouse, ses parents, en tout cas, ils sont très raffiné. Et moi, j'étais trop brut. Mais je vous dis, si elle me jugeait selon la chair, j'étais pas mariable. J'étais toujours en tapette, troué. Avec une chemise déchirée. Et je partais évangéliser. Je faisais exprès. C'est pas que mes parents n'avaient pas les moyens de me prendre une chemise. Je pensais que c'était comme ça, le ministère. Il fallait être comme Jean-Baptiste. Mais elle m'a vu et Dieu a parlé à son être. Quelque chose a dit, il a quelque chose d'autre dans le fond. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui sera. Il est différent. Alléluia. Il est différent. Qu'est-ce qu'il faut rechercher en deuxième position? La deuxième chose, ce sont les valeurs. Est-ce que la personne a peur de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu n'est pas mariable. Ou, ça ne veut pas dire qu'il est à rejeter indéfiniment. Non. C'est que le temps du mariage n'est pas arrivé. Il faut encore attendre. La peur de Dieu est ce qui va vous garantir votre couple. Un mari qui n'a pas peur de Dieu va te détruire. Parce que je vais dire, au lieu de dire mon mari est fidèle. Mais quand tu vas en voyage, quand tu n'es pas là, s'il n'a pas peur de Dieu, qu'est-ce qui te garantit qu'il sera fidèle? C'est la peur de Dieu qui fait qu'un homme reste fidèle. Parce que quand madame n'est pas là, il sait que Dieu est présent. Quelle que soit la pression, à cause de Dieu, il ne va pas tomber. Si ton mari reste fidèle juste à cause de toi, ce n'est pas une garantie. Il faut qu'il ait peur, il faut qu'il craigne Dieu. Le respect de Dieu. Dieu doit être. Alors, ce sont des choses pour lesquelles tu dois tester. La femme que tu veux prendre, elle doit respecter Dieu. Elle doit craindre Dieu. Alors, si tu découvres quelqu'un qui a un bon fond, une bonne vision, mais pour le moment, il n'a pas encore peur de Dieu, il ne craint pas Dieu, c'est que ce n'est pas le temps de le marier. Si tu le vois comme ça et tu te maries rapidement, tu fais l'erreur. Tu es en train de manger un héritage avant le temps. Tu es en train de manger un fruit qui n'est pas encore mûr. Le fruit va te blesser. Amen. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, vraiment, est-ce que ce monsieur-là te craint? Pourtant, il a l'église, il chante à la chorale, tout ça. Mais tu dois demander, est-ce qu'il a peur de toi, Dieu? Et un jour, par hasard, comme ça, il dit, il t'invite. Sœur, allons au glacier. Vous battez au glacier. Tu dis, Seigneur, monte-moi. Vous causez, hein? Et puis un coup, tu vois, il décroche le téléphone. Oui, allô? Oui, c'est comment le moment? Mais où tu es? Oh, vous êtes au glacier à Abidjan ici. Et puis il dit, je suis à Yamoussoukro, hein? Et quand il raccroche, eh non, les gens me fatiguent trop parce que là. Écoute, ma soeur, il a menti à quelqu'un au téléphone pour des affaires. Demain, il te mentira à toi. Donc, Dieu vient de te parler. Dieu vient de te parler. Tu arrives et tu veux voir les valeurs. Un jour, tu rends visite à celle que tu penses aimer. Et tu arrives à la maison. Tu vois la violence avec laquelle elle parle à sa bonne. Je t'ai dit. Même si avec toi là, mon chéri. Mais la façon dont tu l'as vu reprendre sa nounou là. Mais avec une haine. Je vais te couper tout salé. Mais tu bébé. Elle parle comme ça. Mon frère, je n'ai pas dit que ce n'est pas ta femme. Mais ce n'est pas le moment. Si ses os ne sont pas guéris, la même colère qu'elle a faite à la fille, là, elle va le faire. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire, la nounou, c'est petit. Si elle ne sait pas parler en douceur, elle ne te parlera pas avec douceur à un moment donné. Donc, avant d'entrer dans le mariage, traite le sujet d'abord. Les valeurs d'une personne, le caractère d'une personne détermine le temps. Pas forcément que la personne est éligible ou pas. Parce que tout le monde peut changer. Alléluia. Alléluia. Mais, au moins, ça te dit, ce n'est pas le moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Nous voulons nous arrêter là. Si je suis dans mon mariage et que je vois que je n'ai pas respecté ces principes, maintenant commence, ma soeur, la première chose, Seigneur, montre-moi qui est ma femme. Montre-moi qui est mon mari. Quand tu vas voir ces choses-là, tu vas comprendre pourquoi tu peux soutenir la mission. Parce que maintenant, tu vas aider ton homme à manifester le grand trésor que Dieu a déposé en lui. Parce que tu viens de le voir. C'est comme une femme qui a un enfant. Vous savez, votre bébé, quand il est bébé, si vous le jugez par rapport à la chair et au sang, vous allez le chasser, il pleure, il fait pipi sur lui, tout ça. Mais madame, quand tu le regardes, tu vois autre chose. Quelqu'un peut paraître sale de l'intérieur, de l'extérieur, mais être quelqu'un de totalement différent. La soumission, c'est l'acte par lequel tu vas la mener à briller. L'amour, au point de te sacrifier pour celle-là, c'est parce que tu as vu qui elle est et tu es prêt à t'offrir pour que le trésor qui est caché en ton épouse puisse être manifesté. Aujourd'hui, tu es marié avec quelqu'un de compliqué, mais ce n'est pas grave, prends courage. Repose-toi un peu et demande au Seigneur, mais qui il est? Car toute personne que Dieu a créée l'est pour un but, mais on peut se corrompre. Si tu sais qui est ton homme, si tu sais qui est cette femme, alors tu auras la force divine, comme pour un enfant, d'être patiente, d'être patient, pour que le trésor caché puisse être révélé. Par
parlons à notre Seigneur. Que Dieu nous donne de savoir voir le fond. Que Dieu nous donne la vision de l'être intérieur d'une personne. Parle à Dieu. Quand le Seigneur conduira vers toi la personne qu'il t'a destinée. Parce que Dieu exauce la prière. Demande au Seigneur en ce moment-là de ne pas juger selon la chair et le sang, mais d'avoir la révélation qui vient du Père. Demande au Seigneur de ne pas être aveugle. Dieu te répond, peut-être que tu ne sais pas voir le fond. Ces deux critères ne sont pas exhaustifs, il y en a encore d'autres que je traiterai la prochaine fois. Mais nous voulons nous appesantir sur ces deux critères. La vision d'une personne, le but de sa vie et les valeurs, le caractère, la crainte de Dieu, sa justice intérieure. Voilà deux choses qu'il faut chercher à savoir. Comme le serviteur d'Abraham qui a voulu voir si cette femme-là avait suffisamment le cœur de la soumission. Une femme qui pouvait soutenir la mission. Et quand il a éprouvé, il a vu que cette femme a soutenu les chameaux même du serviteur, a soutenu ce qu'il avait. Seigneur, apprends-nous, révèle-nous l'intérieur des personnes avec qui nous devons être. Révèle-nous le cœur, afin que nous puissions être une aide, une bénédiction pour notre conjoint. Que nous ne puissions pas le juger par rapport à la chair, mais que nous puissions juger la personne avec qui nous marchons par rapport à ses valeurs intérieures. Dieu, ouvre nos yeux à ce que nous ne voyons pas. Fais tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir ce que nous ne voyons pas. Seigneur, lorsque les hommes s'approcheront de nous, quelle que soit leur apparence, même si elle est luxueuse, elle est belle, apprends-nous à ne pas écouter la chair qui cherche le matériel, mais à écouter l'être intérieur. Tu ne nous donneras pas un foyer instable, un foyer brisé sur le plan matériel. C'est certain, Seigneur. Mais quelquefois, la gloire de demain, nous ne savons pas la voir aujourd'hui. Nous ne savons pas voir la gloire de demain. Nous méprisons les faibles commencements parce que nous jugeons selon notre chair et selon notre âme, selon notre sang. Apprends-nous à voir. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à voir ce que nous n'avons pas vu. Apprends-nous à voir ce que nous n'avons pas vu encore avec l'homme avec lequel nous vivons, avec la femme avec laquelle nous vivons. Merci, Père, pour tes révélations. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.
À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer. Toi seul,
et on va dire encore à jamais tu seras,
hey. À jamais tu seras,
à jamais tu seras
l'agneau sur le
trône, l'agneau sur le trône.
Je fléchis les yeux.
Je fléchis les genoux
pour t'adorer, toi seul.
À jamais tu seras.
À jamais tu seras.
À jamais tu seras.
L'agneau sur le
trône. L'agneau. Sur le trône,
je fléchis les genoux.
Je fléchis les genoux.
Pour t'adorer, toi seul.
Nous voulons dire les cieux proclament.
Les cieux proclament.
Seigneur, les cieux. Les cieux proclament la gloire de celui que la mort n'a pas pu retenir. Et rien, Seigneur, ne peut se comparer à toi. Rien n'est égal à ta beauté, Seigneur. Je veux dire encore, les cieux proclament.
Les cieux.
Seigneur. Les cieux proclament
ta gloire, tu es ressuscité.
Rien n'est égal,
mon Dieu. Rien ne peut se comparer à toi,
à la beauté du Seigneur.
À jamais tu seras,
à jamais tu seras,
à jamais tu seras
l'agneau sur le trône.
Agneau sur le trône,
je fléchis les genoux.
Seigneur, je me prosterne devant ta face
pour t'adorer, toi seul.
À jamais tu seras,
à jamais tu seras.
Mon Dieu. Sur le trône,
je fléchis les genoux,
je fléchis les genoux
pour t'adorer, toi seul,
pour t'adorer, toi seul. Seul mon Dieu. Toi seul mon roi. Toi seul Jésus. Tu es le seul qui est digne d'être adoré. Le seul qui est digne d'être célébré. Le seul qui est digne d'être magnifié.
Thank you.
gloire. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Raï de Chantal à la brousse. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Toi seul. Pour t'adorer. Je veux te donner la gloire, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur.
Et... adoré toi seul, Jésus.
C'est toi seul, Jésus, qui mérite d'être honoré, qui mérite les remerciements, qui mérite l'amour, qui mérite la puissance. Honneur à toi, Dieu Tout-Puissant. Pour t'adorer, nous voulons acclamer le seul Dieu qui est digne de recevoir l'honneur, Jésus de Nazareth. C'est toi qui as donné ta vie pour nous. Raï de chandere de bo sharababoye, raï la gloria de bo sharabababaye, ri de bra de gloria de kere de otoro e. Merci pour ces instants. Alléluia. Merci, roi de gloire.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site.